France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Donc là, les oignons sont prêts. Et donc, on n'a plus que les courges à finir de partager.
Des légumes 100% bio, distribués à raison de 40 paniers par semaine aux adhérents d'une AMAP locale.
AMAP, ça signifie Association pour le maintien d'une agriculture paysanne.
Ah, très bien, ça je ne savais pas.
Ce principe des AMAP a vu le jour au Japon. Le tout premier à se lancer en France, ce fut Daniel Vuillon, qui a créé l'AMAP des Olivades à Olioul, près de Toulon, c'était en 2001.
Dans d'autres AMAP, on va pouvoir trouver du pain, du miel, des œufs, du fromage, des produits laitiers, des viandes, des volailles, tout est possible.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont va déguster AMAP. Chaque semaine, des milliers de Français vont chercher leur panier de légumes et de produits bio dans ce modèle de circuit court, désormais incontournable dans notre paysage alimentaire. Et cette association pour le maintien de l'agriculture paysanne, cette véritable idée de génie de l'économie sociale et solidaire, eh bien, elle est apparue dans notre pays grâce à un couple de maraîchers du sud de la France, Daniel et Denise Vuillon. Bonjour.
Bonjour. Et bonjour.
Merci de venir jusqu'à nous depuis le Var où vous habitez. Hein.
Oui.
Vous tenez en famille avec votre fils Agnès, hein, désormais, et votre petit-fils Émile, c'est bien ça, la ferme des Olivades.
Tout à fait, oui.
On peut le définir comme un îlot bio et maraîcher à... Où ça ?
Olioul. Près de Toulon.
C'est
près
ça. On est vraiment dans la ZAC hein, de Toulon. Vous êtes entouré de béton.
Ah oui.
Et vous êtes une parenthèse de verdure.
On n'est plus vraiment à la campagne. Mais,
vous êtes encore une belle parenthèse nourricière.
Beau jardin maraîcher.
Et c'est vous qui avez donc fondé la première AMAP en France en 2001. Vous allez nous raconter cette aventure. Ce fut une petite révolution qui, en plus de deux décennies, a essaimé dans toute la France. Et cette aventure passionnante et même visionnaire, mais aussi le déclin et la résistance du monde paysan face à l'économie de marché au début des années 2000, eh bien c'est un nouveau roman graphique qui le raconte de très belle manière, circuit court, une histoire de la première AMAP parue aux éditions Futuropolis. Bonjour Tristan Thil.
Bonjour.
Vous êtes documentariste,
oui.
Vous êtes journaliste, auteur et vous avez écrit ce récit vraiment passionnant. On a beaucoup apprécié votre livre dans l'équipe dont on va déguster, raconté en bulles et en dessin par Claire Malary. Votre album, ce sont aussi quelques recettes légumières et là, on a une petite surprise pour vous. Peut-être entendez-vous grésiller la plaque de cuisson de l'émission, une petite surprise. Vous allez voir, c'est tout simplement une des recettes de votre livre que vous allez déguster et vous allez voir qu'elle fonctionne très bien. Deux chroniqueuses à bord dont on va déguster, Zazie Tavitian et Elvira Masson. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour à tous et toutes.
Zazie.
Oui, moi je suis allée dans le quartier de la Pomme à Marseille rencontrer des amapiens et des amapiennes et deux superbes paysannes.
On va tâter le terrain avec vous du côté d'une AMAP marseillaise, Elvira Masson.
Il va être question du lien intime entre alimentation, cuisine et bande dessinée à l'occasion d'une superbe exposition qui commence.
Très intéressant. Des recettes, des contacts, de bonnes infos autour des AMAP et de l'agriculture paysanne. Tous nos contenus sont à consulter sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
On commence, vous connaissez peut-être la tradition de l'émission, par une mise en bouche qui devrait, chers amis, titiller vos papilles. Je vous fais déguster une petite surprise à l'aveugle, ou plus exactement, deux spécialités différentes qui relèvent en fait, vous allez voir, de la même démarche. Alors il y a d'abord, j'ai décidé comme ça, c'est arbitraire, une surprise salée pour Daniel, Denise et Zazie, et une surprise sucrée qu'on verra un tout petit peu plus tard pour Elvira et Tristan. Alors on commence par le salé. Zazie, allez, vous vous lancez?
Alors c'est une petite poudre verte, alors moi ça me fait penser un peu à un petit sel parfumé et ça me fait penser à ce que je pourrais mettre dans mes Bloody Mary ou comme on est encore en Dry January dans mon jus de tomate. Donc peut-être qu'il y a un peu de céleri dedans.
Ah ah. En tout cas, il y a pas mal de choses, on va voir. Qu'est-ce que vous dites, Daniel?
L'odeur m'a fait penser un peu à du coco, et puis en goûtant, il y a du salé, un petit peu pimenté, avec des graines qui m'a fait ressembler à des graines de figues.
Les fameuses akènes de figues.
Et la question que je me posais, et ça doit peut-être se fumer aussi.
Alors on va essayer, allez roule. Denise, Vuillon.
Écoutez, moi j'ai eu un sac d'épices dans un marché d'Afrique du Nord.
Oh, alors là c'est pas mal.
Du cumin.
Très difficile parce qu'il y a un sacré mélange quand même.
Ouais.
J'ai pas trouvé le légume séché et épilé. J'ai pas trouvé, mais très épicé, genre cumin, quatre épices. C'est ce qui m'est venu parce que je connais bien l'Afrique du Nord.
Eh ben, je ne vous en voudrais pas. C'est très difficile à trouver. Vous voulez savoir ce qu'il y a dedans ?
Ah oui. Bah oui.
Alors pour ça, j'ai tendu le micro à l'une des créatrices de cette poudre mystère, Bénédicte Gori.
Il s'agit d'un bouillon d'ailleurs Médicis, qui évoque l'Asie, les Caraïbes, le Maghreb, mais qui est fait avec des ingrédients 100% locaux. Et cette saveur de curry, elle est révélée par l'hélichryse immortelle, qu'on trouve beaucoup dans le sud de la France, une pointe de menthe, un peu de coriandre, et ça nous invite à faire un dalle de lentilles corail, des nouilles sautées, des crevettes à la poêle, même un faux. On est tout à fait dans les saveurs exotiques.
Une poudre d'ici, mais d'ailleurs. Non, plutôt, une poudre d'ailleurs, mais d'ici. C'est ça qui est intéressant, c'est une espèce de curry, mais qu'avec des produits champêtres et locaux, vous l'avez vu, et notamment cette dominante d'immortelle, qu'on trouve notamment aussi beaucoup dans le maquis corse.
Et qui sent le curry, on en a.
Effectivement.
C'est un nez de curry, l'immortelle. J'en ai dans mon jardin, l'hélichryzome, j'en ai.
Voilà.
L'hélichryzome italicum.
Bravo, c'est intéressant, non ?
Oui.
Allez, on passe au sucré. Tristan et Elvira, bilan des courses.
Bon, déjà,
c'est vert.
Ouais, c'est une petite poudre vert pâle. Enfin, voilà. Et
alors, c'est bon.
Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est très bon. Et au nez, on a senti. Alors, au début, la bergamote, mais on. Voilà.
Alors, vous êtes vraiment sur
c'est
le chemin.
C'est un agrume.
Mais on pensait.
C'est pas un agrume, mais c'est un.
Cédrat, pomelo, quelque chose comme ça,
en tout cas. Alors, vraiment, c'est un ingrédient qui développe toutes ces notes citrus. C'est un sucre aromatisé à quelque chose. Là aussi, on est dans un univers champêtre. Mais ça vous plaît ou pas ?
Ah, c'est délicieux.
Ouais, c'est très bon. Et on peut pas s'empêcher de penser aux certains arômes du thé.
Enfin, oui, je pense que un peu thé Earl Grey.
Ça fait souvenir, ça rappelle ça, quoi. Voilà,
c'est une plante des champs, c'est ça ?
Ouais.
Et c'est laquelle ?
Je peux même vous en dire plus, c'est un arbre. Vous voulez vraiment savoir ce que c'est ? Solution des jeux, toujours avec Bénédicte Gori.
Alors, il s'agit d'un sucre aux aiguilles de Douglas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un sucre qui va remplacer le sucre vanillé, du sucre de betterave bio français. C'est important de soutenir la filière, qu'on a mélangé avec des aiguilles de pin Douglas. Ça va évoquer des saveurs un peu agrumes, citronnées, et ça va s'utiliser dans une préparation dessert ou même dans un plat sucré-salé pour donner des saveurs originales et dégager ce bon vieux sachet de sucre vanillé.
Des aiguilles de pin
Douglas.
Incroyable. Qui ont la réputation, vous avez raison Tristan, de développer vraiment des saveurs d'agrumes.
C'est très étonnant.
Mais il y a un truc.
Et maintenant qu'on le sait, effectivement, il y a un côté un peu résineux. C'est vachement plus simple quand on sait.
Presque bonbon des Vosges, hein, on pourrait dire.
C'est
voilà.
C'est ça.
Et ben, ces produits intègres, totalement naturels et paysans, on les doit à une jeune entreprise qui s'appelle Le Jardin et la Recette. Bénédicte nous explique la démarche de cette fabuleuse entreprise.
Le Jardin et la Recette est une entreprise sociale et solidaire. Et notre mission, c'est de créer une filière alimentaire vertueuse grâce aux plantes sauvages du jardin. On fabrique des condiments et aides culinaires extraordinaires à partir de ces plantes sauvages. Et notre mission, elle est d'encourager le retour à la terre et à la paysannerie pour renforcer les rangs du monde agricole, de proposer une alimentation résiliente en remettant les plantes sauvages dans nos assiettes et d'encourager la biodiversité à se régénérer par le réensauvagement des parcelles. Alors nos 400 jardiniers sont dans toute la France. Notre rôle, c'est de les sélectionner par rapport à leur jardin préservé et sauvage, par rapport à leurs pratiques et par rapport à leur motivation. On les accompagne à chaque étape. On rachète leurs plantes, on contrôle la qualité bien sûr, et on les transforme sous forme de condiments et d'aides culinaires dans notre atelier.
Un grand bravo à cette entreprise Le Jardin et la Recette qui fédère quand même 400 jardiniers dans toute la France pour vraiment créer une gamme de produits champêtres. Alors il y a effectivement ces bouillons, mais il y a également un délicieux pesto, ils utilisent l'ortie, quantité de plantes sauvages. Voilà qui fait plaisir de mettre la biodiversité dans des petites conserves pour faire des condiments vraiment de grande qualité.
Bah, elle ne pourra être sauvée, la biodiversité, que si on la remet dans l'assiette. Il ne faut pas qu'elle soit réservée au conservatoire. Il faut la remettre complètement dans l'alimentation.
Et bien voilà, c'est à ça que s'emploie Le Jardin et la Recette. Toutes les informations sur franceinter.fr. Derrière la vitre de la régie pour mitonner cette émission du jour, Laurent Thomas, Ronan Mahé, Fabrice Rivaud, le fabuleux destin de la MAP. C'est juste après, promis, le ciel de Delgrès, choisi par Djoubaka. Bon appétit sur France Inter.
C'est arrivé en pleine nuit, un petit peu après minuit. J'étais déjà endormi, en deux minutes je suis réveillé. Je me retrouve les chaînes aux pieds, pas le temps de respirer. Ils ont fait un signe de croix, on était tous baptisés, baptisés. Le ciel, en attendant, je suis sur la terre. On m'a promis le ciel.
suis sur la terre à ramer. Ils ont mis tous les parents et les enfants de l'autre côté. On était bien alignés comme dans un supermarché. Avec eux pour voyager, pas besoin d'être habillé. Ils ont fait un signe de croix, on était tous embarqués, embarqués. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. Aramé, aramé. L'orage qui arrive, on va encore dégueuler. Ça fait des semaines comme ça qu'on est tous là enchaînés. Pas moyen de se lever, pas moyen de se laver. Paraît que c'est la félicité puisqu'on est tous baptisés, baptisés. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. Sur la mer, on m'a promis le ciel, maintenant je suis sur la terre à ramer.
Très difficile, voire impossible de comptabiliser le nombre d'AMAP en France. Il y en aurait au minimum 2500 répartis sur notre territoire et elle ferait vivre environ 15 000 paysans. Tristan Thil, c'est d'abord en tant qu'usager, en tant qu'AMAPien, alors d'abord à Marseille où vous avez vécu un certain nombre d'années,
c'est ça, ouais,
et
ouais.
Aujourd'hui à Douarnenez dans le Finistère où vous êtes installé, que vous vous êtes intéressé en fait à la genèse et à l'histoire de l'AMAP.
C'est ça, j'ai découvert les AMAP à Marseille par le bouche-à-oreille. En fait. Mm-hmm. J'ai rencontré Daniel Denis dans le cadre d'un boulot que je faisais. Enfin, je tournais une séquence pour un film documentaire sur, qui parlait surtout de la manière dont les producteurs, les agriculteurs, les éleveurs, les viticulteurs s'adaptaient au changement climatique, enfin au réchauffement, qui est assez présent dans le sud, hein, n'est-ce pas ? Et c'est comme ça que j'ai rencontré Daniel et Denise aux Olivades, et en discutant, ils m'ont parlé de leur histoire, des AMAP, etc. Et j'ai pris un peu conscience de la dimension, de la profondeur de tout ça. Donc j'ai proposé de faire ce livre à Claude Gendreau, avec qui je travaille, qui est mon éditeur chez Futuropolis, et c'était parti.
Voilà. On va raconter évidemment cette aventure incroyable, et qui en même temps est encore assez méconnue, étonnamment, parce que les AMAP aujourd'hui, bah, c'est tellement populaire qu'on a l'impression que ça n'a jamais été inventé, que ça a toujours fait partie de notre univers alimentaire. Mais juste un petit mot, Tristan, pour ceux de nos auditeurs et de nos auditrices qui n'ont pas encore vraiment en tête la définition précise d'une AMAP, alors on a le sigle, hein, évidemment, on va le rappeler.
Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Après, une AMAP, c'est très simple, c'est, en fait, c'est comme un système d'abonnement. C'est-à-dire qu'on paye à l'avance un produit qu'on va recevoir de façon régulière dans le temps. Les AMAP fonctionnent en général sur des périodes de 6 mois. Mm-hmm. Ça peut être différent, mais en général, c'est là-dessus que ça se base, avec des distributions qui sont en général de l'ordre de hebdomadaire. Et donc, toutes les semaines, vous avez un panier en échange d'une somme convenue avec l'agriculteur en avance. Un peu comme un abonnement à un journal, quoi, par exemple, finalement, mais ça revient un peu...
Ce qui permet aux paysans d'avoir de la trésorerie, parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre.
Car évidemment, dans le sigle AMAP, c'est même vous, hein, oui. Denise Vuillon, je crois, qui avait mis au point ce sigle pour définir ce nouveau modèle de production et de distribution alimentaire que vous avez mis en place au début des années 2000, c'était 2001, on va revenir évidemment sur cette genèse. Maintien de l'agriculture paysanne, ça sous-entend bien qu'il y avait menace.
Complètement.
Oui, bah effectivement, des années 80 à 2000, on a connu une révolution qui était la disparition d'une agriculture donc traditionnelle et paysanne, puisque dans ces périodes-là, on a perdu grosso modo en 20 ans 3 paysans sur 4 en France.
C'est une hécatombe.
C'est une hécatombe, véritable hécatombe. C'est le développement soutenu à la fois par les décideurs d'un mode de commerce qui est la grande distribution, qui est basé sur des filières longues. Et donc, pour s'installer, ben, ils ont détruit tous les circuits courts. Et donc, nous, on a été pris dans cette dimension de voir petit à petit les copains disparaître les uns après les autres, parce qu'ils n'avaient pas des structures d'exploitation capables de satisfaire les besoins très standardisés d'un nouveau commerce, dit moderne, qui s'appelait la grande distribution.
L'immense mérite de cet album, de ce roman graphique, c'est précisément de raconter à travers le prisme de votre propre aventure au sein de la ferme des Olivades, bah de raconter finalement à grande échelle le déclin de la paysannerie française. C'est quand même ça qui s'est produit. Vous êtes pris de plein fouet, effectivement, le marché commun qui vous a mis directement en concurrence avec les productions italiennes et espagnoles, oui. Mais également l'arrivée à votre endroit de travail, dans votre lieu de vie, bah, l'arrivée de l'urbanisation, de la grande distribution, qui était là encore un grand choc.
Et la menace d'expropriation
Denise,
qu'on a eue pendant une trentaine d'années.
Un mot sur la ferme des Olivades, parce qu'en plus il s'agit là d'un véritable héritage, d'un patrimoine familial. Daniel Vuillon, vous incarnez la 7e génération d'une ferme fondée en 1804 quand même.
Oui,
donc il y a du monde derrière vous.
Oui, il y a une longue histoire. C'est des terres qui appartenaient à un fermier général qui prélevait la dîme pour la royauté. Et à la Révolution, ils ont tous été guillotinés, quoi. Ils étaient 60 hein, qui couvraient le royaume. Et donc, après la Révolution, ces terres ont été redistribuées. Et un de mes ancêtres a fait l'acquisition de ces terres. Il était, lui, ébéniste d'art et il voulait se reconvertir dans l'agriculture. Et donc, il a enlever les céréales pour planter la vigne et les oliviers, qui ont été, pendant un siècle et demi, les productions principales de la ferme des Olivades. Et par la suite, mon père, avec le gel de 56, et puis le fait que le vin de consommation courante se vendait pas très bien, a reconverti petit à petit ses terres en culture maraîchère, mais avec une culture, une monoculture, qui était la culture de l'artichaut.
Et pourquoi ?
Parce qu'elle s'adaptait au fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau dans cette région.
Et c'était un artichaut de grande qualité qui était, je crois, et la bande dessinée le raconte très bien, exporté dans les grands restaurants de Paris, même à l'étranger.
Oui, tout était expédié. Ils produisaient 300 tonnes d'artichauts par an qui étaient entièrement expédiés, qui n'étaient pas consommés localement. Et ensuite, l'arrivée de l'eau du canal Provence a permis de développer une forte diversité de production en toute saison. Et ça a été une richesse phénoménale pour notre région.
Il y avait la concurrence de l'artichaut napolitain, l'artichaut italien.
L'arrivée du marché commun de l'Europe.
Après, c'est toujours pareil. Chaque fois qu'on trouvait une solution, ça marchait pendant un temps, puis au bout d'un moment, ça ne marchait plus. Et c'est comme ça que nous, on est arrivés jusqu'en 2000, après avoir essayé tous les modes de commercialisation possibles et imaginables. Et quand on a découvert ce concept, on a vu que c'était un système qui était un système de forte résistance d'une certaine forme d'agriculture par rapport à l'environnement, tout simplement parce que le prix de l'abonnement s'établit en faisant l'addition des charges du jardin et que l'on divise par le nombre d'abonnés qu'il peut nourrir et qui donne le prix à payer. Donc, c'est un prix qui est calculé jardin par jardin, ferme par ferme.
Et ça, vous êtes arrivé à ce système, finalement, comme un moyen de survie, sinon vous fermiez la porte. Ce qu'il y a d'incroyable, Tristan Thil, et ce que montre de manière magistrale votre roman graphique, c'est qu'en fait, on a en face de nous un couple de paysans, sachant qu'attention, un paysan, c'est un mot très noble. Parce que souvent, on me reproche d'employer ce mot. Je suis content d'ailleurs que AMAP ait la lettre P hein, dans son sigle. Parce que le paysan, ce n'est rien de moins que l'artisan du paysage. Ce n'est pas le pecno, évidemment.
Non, et puis c'est la différence entre l'agriculture conventionnelle. Il fallait bien la nommer. Parce que pendant un an, c'était AMA. Et l'année d'après, il a fallu bien définir notre type d'agriculture. C'était la paysanne.
Donc assumons le mot, effectivement, de paysan. On a devant nous un couple de paysans parfaitement résilients qui se sont adaptés à un nombre de mésaventures, que ce soit l'arrivée de la grande distribution, les menaces d'expropriation.
Oui, tout à fait. Bah, c'était ça qui faisait aussi partie de ce que je trouvais intéressant de raconter à travers...
C'est les rebondissements.
Exactement, c'est les rebondissements. Et puis c'est surtout cette faculté de réussir à toujours s'adapter, se réinventer, se remettre en question aussi. Je pense que c'est quelque chose d'assez important. Et ça, c'est quelque chose que Daniel et Denise ont très bien fait tout au long de leur vie. Dans cette ferme. Après, c'est le cas de plein d'autres personnes aussi, quoi. Mais c'est aussi très pragmatique, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'idéologie pure, là. On est vraiment dans quelque chose de très concret.
S'adapter.
C'est-à-dire que si on ne s'adapte pas, on disparaît.
Parce qu'il y a eu une menace d'expropriation que vous avez évité de peu. Il y a eu un projet de tramway qui devait traverser aussi votre exploitation. Vous l'avez aussi évité de peu. Oui. Le vent du boulet passait à côté de vous. Oui. Il y a eu, et c'est mis en scène de façon assez grave dans le roman graphique, la visite de ce monsieur de la grande distribution qui, à un moment donné, annonce qu'il va arrêter de vendre vos tomates. Et là, j'imagine que ça a été un premier électrochoc qui a préparé la suite. Racontez-moi.
C'est-à-dire qu'effectivement, il reprochait à nos tomates, qui étaient des tomates de plein champ, d'être irrégulières dans leur présentation. Vous voyez, il y en avait qui étaient un peu tordus.
C'est en quelle année, ça ?
Etc.
91.
Toutes les enseignes ont eu, sur la tomate, en 91, décidé de ne plus commercialiser de tomates de plein champ, parce que ce n'était pas des long life, ce n'était pas des uniformes colores, ce n'était pas des calibres qui étaient les mêmes. Elles n'avaient pas la fermeté des tomates dites modernes. Et ce qu'ils voulaient, ils nous disaient, bah, faites des serres, faites des tomates hors sol, vous voyez, comme celle-là. Elles étaient à la fois excessivement chères par rapport aux nôtres, et puis elles n'avaient pas de goût, quoi. Alors on leur a dit, mais c'est pas possible, quoi. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait au plus vite sortir de ce mode de commercialisation qui nous emprisonnait complètement pour pouvoir faire notre métier comme c'est on ça. Pensait qu'il fallait le faire. Mais on s'est dit, ben, on va essayer de chercher quelle est la meilleure tomate qui pousse chez nous. Et on a commencé à faire des collections phénoménales de tomates. Et on a découvert qu'on avait des rouges, qu'on avait des blanches, qu'on avait des vertes, etc.
Vous avez été vraiment un des pionniers, une des fermes pionnières dans la remise au goût du jour, effectivement, de ces variétés de tomates anciennes. On le voit d'ailleurs dans votre rapport à la grande distribution, à un moment donné, il y a cette silhouette de mammouth qui s'installe à côté de chez vous, dans la ZAC de Toulon. Mammouth écrase les prix, et puis il y a ce commentaire, et n'écrase pas que les prix, en fait. Parce qu'il y avait aussi, évidemment, vous étiez étranglé par la grande distribution, et c'est comme ça que la paysannerie a peu à peu succombé.
Oui, parce qu'en même temps, la grande distribution, elle a détruit les paysans, mais elle a détruit les petits commerces, elle a détruit tout ce qui était structure locale, les marchés de gros, les abattoirs, etc. Les moulins, tout ce qui existait localement, a disparu, quoi. Et donc, dès qu'on produisait un volume, on n'avait pas d'autre solution que de trouver des débouchés auprès de la grande distribution qui était en capacité d'écouler de gros volumes d'un produit donné. Donc on était condamnés à travailler avec eux et donc à satisfaire leurs besoins, mais ça demandait de restructurer complètement nos entreprises. Quoi.
Dans votre aventure des tomates anciennes, il y a quand même un grand chef qui vous a en quelque sorte sauvé la mise ou qui vous a redonné espoir.
Oui.
C'est effectivement, il y a eu, en 94, il y a un article qui est sorti dans le Figaro magazine sur ce paysan un peu fou du Sud qui fait des tomates toutes les couleurs. Et Alain Ducasse voit cet article et nous a invité à la
Alain
rencontrer.
Alain Ducasse lit beaucoup la presse.
Nous a invité à le rencontrer à Monaco et c'est vrai qu'à partir de cette rencontre où nous on a découvert, parce qu'on l'ignorait, ce qu'était la grande gastronomie, et on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait un travail absolument fabuleux qui était réalisé par ces grands chefs, et à partir de là on a développé cette niche de marché de commercialiser ces tomates assez fabuleuses auprès des grands chef à la fois sur la côte, mais aussi en France, en Angleterre, en Belgique, au Luxembourg. Et ça a été un petit peu un ballon d'oxygène pour l'exploitation. Mais ça a permis aussi d'éviter que ces variétés absolument extraordinaires disparaissent complètement. Quoi, hein.
C'est ce que Ducasse te dit,
Tristan Thil,
quand vous allez là-bas. Moi, j'adorais quand il racontait cette scène parce que c'était vraiment ça, c'est du pain béni pour le scénariste. Mais de Ducasse qui se met avec ses chefs à quatre pattes en train de sentir les cajots de légumes que vous apportez, etc. Oui. Mais ce qu'il dit surtout aussi à Denise et Daniel, c'est qu'en gros, si vous arrêtez, mon métier n'existe plus.
Vous aviez été méprisé par la grande distribution, vous êtes reconsidéré.
Complètement revalorisé, encouragé à continuer, encouragé à ne pas mettre la clé sous la porte, vraiment.
Oui, Alain Ducasse nous a dit, ça va être dur pour vous, mais surtout n'abandonnez jamais. Surtout n'abandonnez pas.
Zazie Tavitian.
Aujourd'hui encore, il y a des chefs qui travaillent en direct avec des AMAP. Je pense à Manon Fleury qui vient dans cette émission, qui travaille par exemple avec Xavier Fender et qui prennent tous les produits, peu importe que ce soit l'hiver, qu'il y en ait moins, et qui les soutiennent comme ça dans leur restaurant.
On reproche souvent à la gastronomie, aux grands restaurants d'être un peu élitiste et réservé qu'à évidemment une petite partie des gastronomes. Ouais. Et en même temps, on sait que c'est grâce à eux qu'il y a, à l'échelle de tous les territoires, en fait, de véritables écosystèmes nourriciers qui réussissent à vivre et à survivre. Et
oui, il nous disait qu'il avait besoin de bons produits pour pouvoir faire son métier.
Noël 1999, une période que vous n'oublierez jamais.
C'est vrai.
C'est là, finalement, encore une fois très bien raconté dans le livre.
Mais ça devait être la fin du monde.
Qu'opère le déclic. Ça devait être la fin du monde. On est effectivement à quelques jours de l'an 2000.
Oui, c'est ça. Tout à fait, le bug informatique.
Que se passe-t-il ? Vous partez en voyage outre-Atlantique.
Voilà,
pourquoi ?
Parce que notre petit-fils était né là-bas. Mm-hmm. Notre fille était là-bas quelques années. Elle y restait. Et voilà, elle faisait des actions humanitaires. On faisait des sandwichs, vraiment. Moi, je préparais des sandwichs avec une Américaine. On a échangé ce qu'on faisait. faisait. Et elle, quand je lui ai dit qu'on travaillait la terre pour des légumes, elle a dit, mais moi, je compense, mes mains n'ont jamais travaillé la terre, ce que je regrette. Mais par contre, je vais soutenir un agriculteur. Et elle a commencé à nous faire rentrer dans le système de CSA, Community Supported Agriculture. Et le lendemain, elle nous amène le contrat. On est allé, notre fille nous amène visiter la ferme qui ne produisait pas en plein hiver. Hein. C'est pour ça que les contrats sont de 6 mois quelquefois, parce qu'il y a beaucoup de maraîchers qui ne peuvent pas. Nous, on cultive toute l'année, donc notre contrat est annuel. Notre fille nous a vraiment bien, bien informés, même à l'international. C'est là qu'elle a su que c'était né au Japon. Hein.
Après, alors ça, c'est raconté dès les premières pages, Tristan Thill. Il y a effectivement ce modèle américain que vous découvrez, qui prospère à New York et dans sa région. Mais avant, il y avait un précédent japonais. Hein.
Tout à fait, ça s'appelle les Tekkei. Et c'est un système qui avait été développé par... des citoyens japonais suite à la catastrophe sanitaire en fait de la baie de Miyamata.
C'est ça.
Où il y avait eu une pollution chimique qui avait entraîné une pollution donc des poissons qui nourrissaient les gens.
Par les métaux lourds et le mercure.
Voilà, le mercure.
Et qui a fait de très nombreuses victimes sur place. Hein.
Ah oui, c'est assez impressionnant. Et puis il y a une maladie qui s'appelle d'ailleurs la maladie de Miyamata, qui est une maladie qui est c'est des déformations sur les fœtus assez spectaculaires, quoi, dans le mauvais sens du terme, quoi. Et donc ils ont développé cette forme-là en disant, voilà, nous, on vous achète votre production à l'avance, en échange, vous nous garantissez une nourriture saine et sans produits chimiques, etc. Et si on raconte ça au début du livre, c'est pour deux raisons. C'est déjà pour poser l'origine du concept, et puis aussi parce que ça entre en écho avec la manière dont les AMAP sont aussi apparus en France, c'est-à-dire à la fois sur une demande des consommateurs et un besoin des producteurs. D'un côté, on avait des producteurs, on l'a entendu avec Daniel et Denis, qui étaient étranglés par la grande distribution dans un système économique qui était très compliqué. Et puis de l'autre, on a commencé en France, en tout cas, à se poser des questions à cette période-là, suite à la crise de la vache folle, etc., où on s'est posé la question de ce qu'on nous mettait dans l'assiette, en fait. Et voilà, donc c'est la rencontre de ces deux préoccupations auxquelles répond l'AMAP, en fait.
2001, c'est l'année où vous créez la première AMAP de France, et comme le dit Tristan Thill, ce n'est pas un hasard. C'est dans un contexte alimentaire très anxiogène.
C'est ça.
Où les consommateurs sont en demande de transparence, voilà, et de traçabilité.
Il y a les crises sanitaires, effectivement, qui ont vraiment interrogé les consommateurs. Et comme on avait un ami paysan qui était dans cette association d'Aubagne, il leur a dit, mais on va faire une réunion, ça s'appelait la réunion sur la malbouffe. Eux voulaient savoir ce que nous, les paysans, nous leur mettions dans leur assiette. C'était vraiment inquiet. La crise de la vache folle, les poulets à la dioxine, la listeria dans les fromages, enfin, il y avait une... C'était vraiment la crise sanitaire qui commençait à être inquiétante. Et nous, ben, on a commencé à faire le constat de l'agriculture à cette réunion. Et on leur dit, voilà, ben nous, on est en crise aussi, on va disparaître complètement. Par contre, on a une solution. Et c'est là qu'on a raconté un peu ce qu'on avait vu.
Votre retour d'expérience après votre séjour à New York.
Enfin, on a pu en parler, ça faisait un an après. Hein. Tout était prêt pour le fonctionnement. Et ça les a sensibilisés quand même, hein, à la réunion. C'est comme ça que certains qui étaient libres, en retraite... Les premiers militants nous ont suivis, et que ça c'était en janvier, fin janvier, et en avril on distribuait le premier panier. On leur a dit, c'est pas du commerce, vous allez nous payer à l'avance parce que c'est ce qu'il nous faut pour maintenir notre ferme. Et voilà, c'est vraiment, le partenariat est né à ce moment-là.
Les consommateurs s'engagent à vous acheter une récolte d'avance, et le producteur s'engage à distribuer équitablement le fruit de sa récolte.
Tout à fait.
C'est ça qui est formidable. En octobre 2001, preuve que la petite graine que vous avez plantée a vraiment germé assez vite, vous aviez 210 familles adhérentes.
Oui.
Donc, on peut dire que l'idée a pris tout de suite.
Oui.
Daniel Vuillon.
On est arrivé à convaincre la clientèle qu'on avait à notre point de vente, qu'on avait sur notre ferme, à rentrer dans ce système. Et c'est encore aujourd'hui le seul système qui permet à un agriculteur de sortir de l'économie mortifère de marché dans lequel on est, quoi.
On a une petite surprise pour vous, les amis, puisque votre livre, c'est non seulement, bah, évidemment, le récit de votre vie d'agriculteur, mais c'est aussi un livre de recettes avec quelques recettes de saison. Et page 90, il y a un risotto au potimarron. On s'est servi des légumes que vous nous avez apportés. Il y a même un fruit, en l'occurrence. Alors, le légume, c'est une courge. Le fruit, c'est de l'orange. Et on arrive au risotto de potimarron. C'est Marie-Lou Petricola qui travaille comme journaliste dans l'équipe qui nous l'a préparé. Retour d'expérience, Marie-Lou.
J'ai suivi la recette à la lettre, elle était très facile à réaliser. Et ce qui est bien, c'est que tous les ingrédients cuisent en même temps. Le riz, les légumes, donc potimarron et carottes coupés en petits morceaux, des oignons, une branche de céleri. Et on ajoute un petit verre de jus d'orange pour le twist.
Ah, on sent, hein. Ça apporte de la rondeur et c'est vitaminé.
Et un riz rond à risotto qui cuit en même temps que les légumes. Un verre de vin blanc pour l'acidité et ensuite le bouillon. Et ce que j'ai trouvé bien aussi dans cette recette, c'est qu'on peut mettre les épluchures qu'on a utilisées des légumes auparavant dans le bouillon et on a une recette vraiment 100% zéro déchet. J'ai mis une petite touche de parmesan à la fin, mais on peut aussi...
Ça, c'était dans la recette ou c'est votre expression personnelle, Marie-Lou ?
C'est la touche du chef, mais on peut la sauter pour avoir une recette aussi 100% végétale.
Bon, bah, bonne nouvelle, hein. Il est bien passé au crash test.
Tant mieux.
Tristantil.
Très bon.
C'est un régal, il n'y a pas de problème, mais
j'adore le risotto.
Ce risotto a été préparé avec une courge que vous nous avez apportée dans votre panier de la semaine. De quelle variété s'agit-il ?
C'est la courge olive qui remplace le potimarron parce que c'est celui qui passe en premier. Le potimarron, avec sa peau très fine qu'on cuisine d'ailleurs, on n'épluche pas forcément le potimarron. Et ça, c'est une courge qui a une olive, qui a une chair assez épaisse aussi, assez sèche, et qui se garde très bien parce qu'elle a une peau très épaisse.
Elle a une peau avec des reflets cuivrés, elle est particulièrement jolie. Et attendez, les oranges, vous êtes aussi arboriculteur.
On a des oranges chez nous, des citrons, des oranges.
Que vous mettez dans vos paniers pour les amapiens ?
On a un contrat AMAP avec un agrumiculteur de Corse. Mais j'en ai moi aussi des oranges, ça c'est mes oranges.
Quoi d'autre comme légumes ? J'aperçois ce qui pourrait ressembler à un chou.
Ah ça c'est le chou chinois, oui il y a aussi du chou dans le panier qu'on n'a pas forcément apporté ici, mais suivant la semaine, du brocoli, du romanesco, du chou-fleur, du chou-vert,
du chou-rave aussi,
du rouge, du chou-rave, là j'en ai apporté un, le chou-rave, alors lui il est dans notre serre, le chou-rave.
Et puis j'ai à mes côtés, sur ma gauche, dans de très jolis coloris, la famille Radi, hein.
Oui.
Ah oui,
Daniel Vuillon.
Les radis-raves asiatiques qui apportent effectivement de la couleur, des saveurs intéressantes et qui font que, en AMAP, le maraîcher est obligé de diversifier terriblement sa production pour éviter la monotonie de manger toujours la même chose. Et c'est le reproche qu'on lui a fait au départ. On lui a dit, la saison du chou, on va bouffer du chou pendant 6 mois, quoi. Bon. Mais si ce n'est que dans la famille chou, il y a une très grande diversité. Donc on peut très bien manger du chou pendant 6 mois, mais jamais manger le même chou, quoi. Tellement il y a deux variétés différentes et des façons de les accommoder différentes.
Et ça, c'est grâce à la biodiversité que vous accueillez dans votre potager. Précisons aussi que vous êtes en agriculture biologique.
Bien sûr.
Comme la plupart des producteurs qui participent à des AMAP. Hein.
Oui, tout à fait.
Il y a une petite salade aussi absolument délicieuse, faite avec... Alors au départ, je pensais que c'était du navet, mais en fait, on a affaire précisément
radis,
à ce radis.
Oui, ce radis se conserve bien, beaucoup mieux que notre petit radis rond, cerise ou le long.
Elvira, je vous demande de goûter.
Oui. Très bien assaisonné, avec un peu d'acidité. On a l'impression que c'est légèrement fermenté.
Comment on s'y prend pour ce radis en salade ?
Je l'émince, en fines rondelles. Je le fais mariner dans le sel et le citron.
Ah,
du jus de citron, d'accord. Je rajoute l'huile d'olive. Là, celui-ci, je l'ai fait au cumin. On peut le faire à ce qu'on veut. Mais moi, je l'aime bien au cumin parce que ça me rappelle la kémia. Donc...
Ah, c'est ça. C'est...
Voilà.
On parle d'un hors-d'œuvre tunisien, un hors-d'œuvre d'Afrique du Nord.
Complètement d'Afrique du Nord. Je suis née là-bas. Et on peut mettre le piquant Larissa. Le piquant tunisien, c'est Larissa.
Et là, vous avez ajouté aussi quelques olives.
Oui. J'aime bien. Je trouve que ça va bien.
Recette
avec le radis.
Rafraîchissante, extraordinaire. Franchement, le radis en salade par Denise Vuillon à retrouver sur franceinter.fr. À la page, on va déguster.
France Inter. On va déguster.
Elvira, il est question de bandes dessinées, de romans graphiques.
Des banquets d'Astérix à la morue aux fraises chantilly cuisinée par Gaston, de la salsa pareille des Schtroumpfs au ramen de Naruto, des épinards de Popeye à la soupe que Mafalda refuse de manger. La nourriture est un sujet qui a toujours compté pour les auteurs et les autrices du 9e art. C'est le point de départ de Croquer, la BD met les pieds dans le plat, l'expo passionnante qui vient de commencer au musée de la BD à Angoulême, en même temps que le festival annuel qui se tient ce week-end. Passionnante expo, tant l'évolution du lien entre BD et alimentation est révélatrice des changements sociétaux. Car si le rapport à la nourriture est au départ un élément qui caractérise un personnage de BD et son époque, il a beaucoup évolué pour devenir aujourd'hui le cœur du sujet, ce qu'on voit très bien d'ailleurs aujourd'hui avec votre BD, Tristan Thil, Circuit court, ce rapport à l'alimentation, au climat, au ressources, à la santé, au bien-être animal, mais aussi à l'inspiration, au plaisir, à la création en cuisine. C'est le cœur même du médium BD désormais. C'est ce panorama-là, cette évolution sensible, que l'expo met en lumière à travers une centaine d'œuvres, dont des originaux exceptionnels, qui nous font naviguer de Calvo à Franquin, en passant par Taniguchi, et des créations récentes d'Étienne Davodeau, Christophe Blain, Brecht Evans, bref, c'est foisonnant. Pour accompagner l'exposition, cet ouvrage que j'ai entre les mains, Boucher double, les nourritures du futur en bande dessinée, qui est bien plus qu'un catalogue, c'est une œuvre à part entière, pilotée par les deux commissaires de l'exposition, Mathieu Charrier et Marine Bidot, préfacée par le grand spécialiste de la BD, l'écrivain et scénariste Benoît Peters, qui nous rappelle que, depuis une quarantaine d'années, la bande dessinée et la cuisine évoluent un peu de la même façon. L'une et l'autre ont été reconnues comme des démarches artistiques, l'une et l'autre se sont féminisées. L'une et l'autre se sont libérées des vieilles recettes et des carcans. Au cœur de ce livre catalogue, une réflexion sur l'alimentation de demain et cette question, qui est la vôtre aussi, comment nourrir la dizaine de milliards d'humains de 2050 ? Question posée à 14 binômes composés d'un ou une chef et d'un ou une auteur de BD qui croisent les talents en quelques planches. Faire des toits des immeubles haussmanniens des potagers à ciel ouvert, c'est le projet magnifique du bédéaste Mathieu Bablet et de la chef Claire Vallée, tandis que Alix Lacloche et Émilie Glison imaginent et craignent un monde où les restaurants sont tenus par des pharmaciens qui nous font avaler des pilules à nous humains dépourvus de dents, que Solé Otero et Mauro Colagreco, le grand chef du Mirage à Menton, livrent un plaidoyer simple et beau pour le respect des saisons et pour la juste place de l'homme dans la nature. Tous et toutes sont très intéressants, mais moi, il y a un binôme qui m'a particulièrement émue. Il est composé de l'autrice Aurélia Horita et d'Alexandre Gauthier, le chef de la Grenouillère à la Madeleine sous Montreuil dans le Pas-de-Calais. Elle se met en scène chez lui, dans sa cuisine, en salle, et le questionne, notamment au sujet du climat. Elle lui demande « Vous n'avez pas peur de la montée des eaux ?» Réponse du chef « Bon, bah, vous qui avez vécu au Japon avec le tremblement de terre, vous savez qu'on n'est jamais à l'abri de rien. » Aurélia Horita partage son émotion face à la cuisine si vivante, personnel, sensible du chef Alexandre Gauthier et nous livre un moment pratiquement de transfiguration à la dégustation d'un plat appelé oursin pomme de terre. Elle devient rat du Touquet, oursin de la mer du Nord. Elle devient le père d'Alexandre Gauthier, chef avant lui, le cœur brisé lorsqu'il perd son étoile en 2001. Elle devient ce restaurant tout entier et ça se termine ainsi. Construire ensemble, ne serait-ce qu'un repas, est une sensation grisante qui, paradoxalement, peut faire oublier que ces plats merveilleux, on ne pourra sans doute pas les préparer dans le futur. Mais on trouvera autre chose, et même si un jour la mer arrive à Montreuil. Aujourd'hui, ces quelques planches prennent un tour particulièrement émouvant.
Eh oui.
Car la Grenouillère a subi les inondations terribles du mois de novembre. On en avait dit un mot à cette antenne. Le si beau et si bon restaurant d'Alexandre Gauthier est fermé. Il ne rouvrira qu'au printemps, au plus tôt. Un restaurant qui ferme, c'est pas qu'un établissement qui ferme, c'est tout un écosystème qui est menacé. Je vous recommande aussi un autre livre, toujours d'Aurélia Horita, magnifique, La vie gourmande, si vous ne l'avez pas lu,
ah oui.
Chez Casterman.
Absolument.
C'est un récit en forme d'autobiographie culinaire dessinée qui nous entraîne de la cuisine de Pierre Gagnaire, au boui-boui du Japon où elle a vécu, en passant par son expérience intime du cancer qui bouleverse sa vie et ses goûts. La vie gourmande, Aurélia Horita, chez Casterman. Kéribus et la cité, c'est Boucher double, les nourritures du futur en bande dessinée. Et l'exposition au musée de la BD Angoulême, Croquer la BD met les pieds dans le plat, qui a commencé il y a 3 jours et qui dure jusqu'au 10 novembre, donc on a encore un peu de temps.
Merci Elvira Masson, dans un instant, plongée dans une AMAP marseillaise avec Zazie Tavitian.
She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start out standing proud to steal her anything she sees. You will start out standing proud to steal her anything she sees.
will wind up peeking through a keyhole down upon your knees. She never stumbles, she's got no place to fall. She never stumbles, she's got no place to fall. She's nobody's child, the law can't touch her at all. She wears an Egyptian ring, it sparkles before she speaks. An Egyptian ring, it sparkles before she speaks. She's a hypnotist collector, you are a walking antique.
She Belongs to Me, une reprise d'une chanson de Bob Dylan par
Cat Power.
Bravo, en live, où ça?
Au Royal Albert Hall.
Non mais non. C'est une blague ou quoi? Vous lisez mes fiches?
Non mais j'adore l'album.
Ah oui c'est ça, à Londres évidemment. Le destin et le succès des AMAP en France, c'est notre menu du jour.
France Inter. On va déguster.
Zazie Tavitian, vous avez été une AMAPienne marseillaise le temps d'un séjour dans la cité phocéenne.
Oui, c'était début janvier dans le quartier de la Pomme, dans le 12e arrondissement, dans un jardin partagé qui s'appelle le Talus et qui accueille tous les mercredis soirs Marie-Claude Mercadal, agricultrice entre la plaine de la Croix et la vallée des Baux depuis 1989. Je suis arrivée vers 17h30, Marie-Claude était garée dans son camion bien au chaud en attendant le début de la distribution. Vous me connaissez, moi j'avais déjà dégainé mon micro et je l'ai interrogée directement en lui demandant de me raconter son parcours.
Mes parents étaient paysans, je les ai toujours aidés, mes vacances ça a été sur la ferme pour les aider, j'ai passé mes études et puis après on m'a dit bon bah écoute, où tu reprends, où on vend, et puis bon quand on a de la terre au pied, ben voilà, on s'installe et on continue. On se marie, on monte une exploitation et puis ça se passe pas toujours très bien. Monsieur est allé voir si l'herbe était plus verte ailleurs et puis moi j'ai basculé sur le bio et la vente en direct, voilà. Je suis très fière de ce que j'ai fait toute seule, sur tous les fronts, quoi, aussi bien les enfants que redresser la ferme. Ouais.
Donc peu à peu, vous avez changé aussi un peu, enfin, ce qui allait aussi avec l'époque, le modèle agricole de cette ferme.
Parce que c'était peu diversifié, ça tournait sur 2-3 cultures en conventionnel. Hein, et en bio, bah, c'est entre 40 et 50, enfin pour les paniers, entre 40 et 50 variétés produites sur l'exploitation.
Et j'imagine que les adhérents, vous commencez à les connaître maintenant.
Ah, il y en a certains, j'ai vu les petits... dans le ventre de leur maman, pas loin, et maintenant, bah, ils ont certains 10, 12, 13, voilà. On a cette solidarité entre nous, on a cette solidarité aussi entre les paysans, puisqu'on on s'appelle régulièrement, on se soutient, parce que c'est un métier qui peut être usant, physiquement, moralement, bon, on a les aléas climatiques, les aléas de plein de trucs. On est 3 ou 4 à avoir eu pas mal de problèmes de santé. Et on a un collègue aussi qui a fini par, malheureusement, attenter à ses jours. Et, il est décédé au mois d'août, là, il s'est suicidé. C'est vrai que c'est un métier qui est pas toujours évident à vivre. Donc c'est le fait d'être dans ce groupe, dans ce réseau, ça permet aussi ce soutien. La rencontre du soir avec les adhérents, c'est important, cette relation. On a son paysan comme on a son médecin.
Alors voilà, les adhérents sont mis à arriver, à installer les tables, décharger le camion. C'était la première distribution de l'année et tout le monde avait l'air super heureux de se retrouver, comme Marie-Josée, la doyenne de la MAP.
Je m'occupe des œufs, moi, je suis responsable des œufs.
Grosse responsabilité.
Ah ben, il y a pas mal d'adhérents quand même qui prennent des boîtes d'œufs chaque mercredi. Hein.
Et là, il y a le petit tableau, courge, pommes de terre, carottes, patates douces, épinards, blettes, betteraves, mâches, salades, roquettes, on a tout ça dans son panier.
Voilà, c'est ça.
Alors moi je suis adhérente depuis 2010, l'idée principale c'était d'acheter des choses qui poussent pas loin d'ici, donc certes il faut aimer tout, faut pas être trop difficile, mais quand on aime tout c'est très pratique de pas avoir à choisir et de faire avec ce qu'on a, et c'est très satisfaisant. Ça reste des légumes chers parce que c'est des légumes bio, mais si vous comparez des légumes de la même qualité en supermarché, c'est beaucoup plus intéressant.
Il faut aimer cuisiner aussi.
Voilà. Alors ça, c'est le côté, disons, un petit peu contraignant. C'est-à-dire que ben, les légumes, il faut les préparer. Probablement, je vais faire des soupes, je vais faire des quiches aux légumes. Il y a des patates douces au four, c'est très bon. Gratin de blé, patates douces, fromage, c'est très bon. Enfin, il y a plein de bonnes choses.
Hein. La bonne course.
Merci.
Bonsoir. Ah, bonsoir. Les petits au sport. Hein. Ouais, ouais, petit panier, une boîte d'œufs et vous prenez pas de poule.
Non,
ça va, je demande.
Là, on est en stand pesé.
C'est ça, on pèse. Et ce soir, c'est pas facile parce que les pommes de terre, elles sont énormes.
Elles sont énormes. Tiens.
Alain.
Vous êtes là pour la distribution de temps en temps.
Il y a un lien sur lequel les habitués, ils y vont et on se marque une fois de temps en temps pour servir. Et ça fait un roulement. Ça nous donne un peu de travail, mais au moins on mange de la qualité.
Alors, je m'appelle Géraldine Hasbrook.
Et Géraldine, c'est vous qui allez reprendre la ferme de Marie-Claude, a priori.
C'est ce qui est prévu pour la suite. Moi, je ne viens pas d'ici, je viens du Nord. J'ai travaillé en arrivant ici dans l'agriculture conventionnelle. Donc avec tout ce que ça engendre, hors sol, chauffé, les valeurs qui étaient là-bas ne me plaisaient pas du tout, donc je suis partie. Après, j'étais responsable en logistique et j'ai fait un burn-out. Et je me suis dit, il faut que je reprenne quelque chose qui a du sens, de la valeur. Et en faisant des recherches sur Internet, j'ai découvert qu'il y avait Marie-Claude qui avait une exploitation justement sur Saint-Martin-de-Crau. Et ça a été une révélation toutes les deux, en fait. On a vraiment les mêmes valeurs, les mêmes manières de penser et tout. Je dis que c'est ma maman de maraîchage, c'est vraiment des valeurs humaines, on respecte la terre, enfin, c'est hyper important, autant pour l'une que pour l'autre.
Tu connais beaucoup de légumes, toi ?
Oui.
C'est quoi ton légume préféré ?
Les oignons et les pâtes.
L'oignon et les pâtes.
L'oignon et les pâtes, c'est vrai que c'est un bon légume ça, les pâtes.
Bonne soirée à toutes et à tous.
Les pâtes, c'est notre légume préféré aussi.
Ah, voilà, c'est Noé, 2 ans et demi, que vous avez entendu, et effectivement qui a tout compris à la vie, car comme moi, son légume préféré, c'est les pâtes. Et j'ai profité d'être là pour remplir mon caddie. Et pour 18 euros, là où j'aurais eu 3 oignons et 2 carottes dans les prisseries bio de mon quartier parisien, bon, j'exagère un petit peu, mais en tout cas j'ai eu de quoi manger largement pendant une semaine. Et c'était vraiment délicieux. J'ai même ramené de Marseille une butternut, ouais. Avec laquelle j'ai fait les petites croquettes que vous pouvez goûter, que vous avez devant vous.
Mmh.
Alors, c'est pas ma recette. Elle est issue du livre La bonne cuisine des légumes de Céline Maguet.
Et oui, qui est bien.
Qui est chroniqueuse.
Bien sûr.
Dans cette émission et qui est l'autrice de ce livre. C'est assez simple. Il faut juste faire cuire la courge vapeur, la mixer avec de la ricotta, laisser sécher ce mélange un petit peu longtemps. Moi, j'avais pas trop de temps ce matin, j'ai rajouté un petit peu de farine. Normalement, c'est pas obligatoire. Et puis, rouler ces petites boules dans de la chapelure, les faire frire. Et j'ai accompagné avec du yaourt dans lequel j'ai mis des petites olives de Kalamata.
Super bon. Vous aimez, hein,
ah, j'adore, je me régale. C'est comme un bonbon salé, quoi. C'est doux, c'est croquant. La friture est super réussie. Ah non, j'adore, moi.
La friture, c'est quand même souvent, c'est souvent bon.
Ouais, c'est vrai.
Tristan Thil, la map évoquée par Zazie n'était pas la vôtre quand vous habitiez Marseille.
Ben non, je crois pas, parce que moi, j'allais pas à la pomme, mais Marie-Claude, c'était le prénom de l'agricultrice, en tout cas.
Elle distribue justement Marie-Claude dans 2 autres AMAP, donc moi, je pense que c'était peut-être elle, parce qu'en plus, elle est là depuis assez longtemps. Elle distribue dans 2 autres AMAP marseillaises, et elle est aussi sur un marché paysan à Penn-Mirabeau, près de chez elle. Et donc, tout ça, toutes ces infos, plus la recette
De Céline Maguet, délicieuse.
Céline Maguet, je vous mets tout ça sur le site
de
l'émission.
Cette boulette de courge ricotta, c'est une petite splendeur. Tristan Thil, on entend souvent des critiques sur les AMAP.
Oui.
Les AMAP seraient un truc de bobo, un système de privilégiés,
où l'on cultive l'entre-soi.
Où l'on cultive, oui, c'est ça, où l'on cultive l'entre-soi, avec des prix élitistes à la clé, évidemment.
Bien sûr.
Quelle est la réalité ?
Je trouve ça un petit peu fatigant, ce débat-là, mais on a l'impression que c'était une critique qui avait été émise par Nicolas Sarkozy, je me souviens, je le cite dans le bouquin, en disant oui, c'était un truc de bobo, etc., de manger bio, d'aller dans les AMAP, etc. Bon, moi, je ne pense pas que ce soit le cas, et il y a régulièrement des articles, des études voilà, qui sont publiées et qui permettent de faire des comparos.
Et ça donne quoi
en général, on est toujours dans le moins cher, c'est loin d'être le plus cher, en tout cas, c'est bien ça. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas non plus la finalité, quoi. C'est-à-dire que, comme le disait Daniel tout à l'heure, la MAP, c'est le juste prix de la nourriture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spéculation, ni de...
Voilà, les prix les plus bas possibles, c'est finalement le truc, le miroir aux alouettes que nous ont inventé la grande distribution.
Exactement.
L'idée, c'est pas de payer ces légumes le moins cher possible, c'est de les payer de la façon la plus juste pour que le producteur, en amont de la chaîne, puisse être rémunéré pour son travail. C'est ça, hein ?
Oui, moi, je pense que le gros problème, enfin... Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les paysans dans tous les pays du monde, dont la France, font partie des gens les plus pauvres. Donner aux paysans de quoi vivre dignement de son travail, Bah, ça n'a pas de prix, quoi, parce que c'est lui qui nous apporte une nourriture dont on a besoin tous les jours, qui apporte santé et plaisir, qui sont indispensables.
Denise Villon.
Moi, je vais même jusqu'à demander aux gens de ne plus comparer, de ne plus faire de comparaison, parce qu'on n'est plus dans le même type d'agriculture. On ne peut pas comparer un produit de l'agro-industrie avec un produit maraîcher, local.
En termes de saveur, nutritionnellement.
En termes de santé.
En termes de santé, de produits chimiques, d'impact sur l'environnement, évidemment.
Donc, c'est même pas comparable.
Mais surtout, en plus, si on s'amuse à comparer, Zazie Tavitian, pour le coup, c'est souvent à l'avantage de la MAP.
Oui, parce que je pense que ces comparaisons, ça permet au moins de défaire ce cliché. Et ils l'ont fait avec les paniers marseillais. Mm-hmm. Et effectivement, en lissant sur toute l'année, là, c'est 18 euros le prix du panier. Et je crois qu'en comparaison, dans un supermarché, le prix du panier équivalent était 10 euros plus cher, quasiment. Donc,
ça montre aussi que c'est un gap énorme.
Voilà. Et ils peuvent aussi prendre les paniers une semaine sur deux, les adhérents. Donc, s'ils ont moins de moyens, voilà, ils peuvent, avec deux paniers par mois, se nourrir aussi.
Et puis, il y a ce problème, cette autre menace qui touche aussi le monde paysan, comme s'il fallait encore le fragiliser davantage. C'est évidemment la menace climatique, hein, auquel vous êtes confrontés. Il devient de plus en plus dur, surtout dans le sud de la France, de cultiver des légumes.
Ça devient très compliqué de produire de la tomate, par exemple, de plein champ en plein été. Ça devient compliqué, alors que quand j'étais enfant, ça poussait tout seul, quoi. Ça posait
et paradoxalement,
aucun problème,
en hiver, les conditions s'améliorent.
Et en hiver, on a des diversités qui sont de plus en plus grandes qu'on n'avait pas. Et il n'y a qu'à voir la composition des paniers qu'on a aujourd'hui. Bon, nous, on a en ce moment 14 légumes différents dans les paniers, quoi.
Et parmi ces légumes, il y a un tubercule qui donne véritable surprise à goûter. Est-ce que vous avez reconnu de quoi il s'agissait, Elvira ?
Oui, c'est de la patate douce, mais préparée comme une crème de marron. C'est ça que c'est ma nouvelle douceur préférée. C'est incroyable.
C'est la chair de la patate douce qui veut ça. C'est vraiment très fin.
Avec sucre,
alors, attendez, vous
un peu de vanille.
D'une confiture de patate douce ?
Mais oui, vous donnerez la recette.
Du coup, moins sucrée que la crème de marron.
En quelques gestes, parce qu'elle figure sur franceinter.fr, la page on va déguster.
Bien. Donc on fait cuire d'abord la patate dans de l'eau bouillante. Mm-hmm. On égoutte donc cette patate. On la pèse pour pouvoir mettre 700 g de sucre pour 1 kg de patate.
Magnifique.
Ouais, crème, on a déjà, il suffit après de mixer, hein, on a cette consistance. Évidemment, bon, Daniel est un passionné, c'est un fanatique de la biodiversité.
On l'aura compris.
Donc cette année, on a vraiment beaucoup de patates. Ça, si c'était la orange, il me semble que c'est la bonita. Après, vous avez la rouge ou la blanche.
Bon, bah, tout le monde se régale. Moi, je veux bien qu'on m'envoie le pot avant qu'il soit fini. J'ai pas encore goûté.
C'est plus une crème qu'une confiture. On peut l'imaginer avec un yaourt de brebis, avec vraiment comme un Mont Blanc de patates douces.
On met un verre d'eau pour 500 g de sucre, un bâton de vanille. Là, vous avez, elle est à la vanille.
Oui, on le sent.
Ici, voilà.
On le sentit.
Une pointe de cannelle, si on veut, et une pincée de noix de muscade par patate, voilà.
La recette sur franceinter.fr à la page où on va déguster. Et on finit par, alors, plein de petits coups de cœur parce que Tristan Thil est en plus particulièrement gastronome et amateur de bonne chère et de produits paysans. Sachant qu'il va y avoir votre carnet de coups de cœur sur notre site.
C'était juste pour faire un petit clin d'œil et un pas de côté avec les légumes. Donc moi je suis venu de Bretagne, donc j'ai amené ici un tartare d'algues. C'est assez intéressant.
Fantastique.
Puis j'ai ramené des petites choses autour de la sardine puisque Dornenay c'est la cité de la sardine.
Hein.
Voilà.
Ouais.
Rillettes de sardines à la salicorne. Et puis là, j'ai ramené une boîte de sardines très classique, voilà, huile d'olive citron.
Et tout ça vient d'une petite conserverie artisanale et familiale qui s'appelle Kerbrillant, c'est
ça ? Voilà, c'est une des dernières conserveries familiales vraiment à Dornenay, où il y a beaucoup de conserveries, mais celle-ci a gardé son calibre. Et deux autres petites choses, alors ça, c'est un petit clin d'œil, je voulais vous faire goûter, c'est de la gelée de coin, mais c'est maison. Et la cuisine, c'est aussi des moments affectifs.
Parce que vous avez un cognacier ?
Alors, j'ai un cognacier depuis peu qui m'a été offert par ma compagne, qui est planté dans mon jardin, mais la gelée de coin, c'est un truc pour moi, c'est hyper important parce que c'est un moyen d'être en communion comme ça avec des souvenirs. Voilà, et je pense à ma mère, je fais ça, la gelée de coin tous les ans, c'est un petit peu ma petite madeleine.
Splendide, on va goûter.
Et enfin, je vous ai ramené un truc, alors ça paraît peu étonnant parce qu'on parle de circuit court, mais je vous ai ramené une plaque de chocolat. Pourquoi je vous ai ramené ce chocolat ?
Mais c'est quand même du circuit court.
Voilà, parce que ce chocolat-là, il est amené en Bretagne. Il y a tout un tas d'entreprises qui se développent en ce moment là-bas et Dornenay est un de ces ports qui se développe dans ce sens du commerce à la voile. Voilà, et donc c'est un chocolat à cacao qui vient d'outre-mer, bien sûr, mais voilà, qui est ramené à la voile, donc c'est le transport décarboné.
Avec une petite pointe de sel breton.
Voilà, alors là, il y a un peu de ça, il y a du sarrasin torréfié. Voilà, alors ça, c'est très breton.
Magnifique, on va goûter ça, parce que quand on parle de circuit court, la définition, c'est zéro ou un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. C'est pas forcément une question de distance.
C'est pas qu'une question de distance, et puis ça dépend comment on franchit la distance.
Et ben justement, circuit court, une très belle histoire, celle de la première AMAP, la vôtre, Daniel Vuillon et Denise Vuillon, un grand merci et vive la ferme des Olivades où vous tenez encore votre AMAP avec beaucoup de succès. Et puis cette bande dessinée est chez Futuropolis, signée par Tristan Thiel et Claire Mallary, hein, avec de très belles planches monochromes de couleur vert lichen, un très beau trait de crayon à la fois délicat et très tranchant. Franchement, c'est vraiment un album qui vous apprend beaucoup de choses justement sur le circuit court qui est la AMAP. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on célèbre un nouvel an chinois avec nos invités et nos chroniqueuses. Un petit coucou à AMAP, notre stagiaire de 3e qui nous a accompagnés.
AMAP.
Un petit coucou à Anouk, notre stagiaire de 3e qui nous a accompagnés pendant toute la semaine. Merci encore Marie-Lou pour cette recette de risotto à la courge. À dimanche prochain.
Merci.
Si vous avez encore faim.